Bonsoir chacun et chacune. Quelle grâce de nous retrouver dans sa maison. Quelle grâce. Je voudrais poursuivre le sujet que j'ai abordé dimanche, à savoir l'importance de vraiment faire confiance au Seigneur. Nous allons faire deux lectures, une première qui nous parle des conséquences néfastes du doute, un texte que nous connaissons bien dans Jacques au chapitre 1er. Le Seigneur nous demande de ne pas douter, c'est un principe biblique, c'est une exhortation, car celui qui doute, eh bien, se trouve en danger. Jacques, chapitre 1er, même si Dieu l'aime, même si Dieu veut le bénir, il passe à côté de certaines choses. Et nous n'avons pas justifié le doute sous quelque forme que ce soit. Donc, Jacques, chapitre 1er, verset 6, voilà ce qui est écrit. « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Voilà donc les conséquences d'un homme qui choisit de douter. Et puis il y a ceux qui choisissent d'être fermes. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Ce sont deux choix différents, ou je doute, ou je choisis de douter, ou alors je choisis d'être, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 58, c'est exactement l'inverse. Voilà, il dit ne doutez pas, et là il dit ce qu'il faut faire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le résultat, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc il y a ceux qui choisissent de douter, ceux qui doutent, et il y a ceux qui choisissent d'être fermes, d'être inébranlables. On le voit, le mot doute est en opposition totale avec ce mot d'être inébranlable. Je crois qu'un chrétien, comme on vient de le lire, il veut travailler de mieux en mieux. Est-ce que vous voulez faire des progrès avec le Seigneur? Ah oui, la vie avec Dieu doit être faite de progrès, même si la vie physique peut-être se fatiguer, spirituellement, l'homme veut faire des progrès. Et s'il y a bien une chose qui empêche de faire des progrès, qui provoque des troubles et des malaises, c'est une foi qui n'est pas affermie. Et hélas, beaucoup de chrétiens se trouvent confrontés à cette instabilité, à ces malaises, à ces troubles. Ils sont, comme l'apôtre Jacques l'explique, comme on vient de le lire, ils sont comme le flot de la mer, agités d'un côté, agités de l'autre. Ils n'arrivent pas à atteindre des buts, des objectifs. Ils sont là, c'est comme quelqu'un qui avance un jour, il recule le lendemain. C'est écrit avec les vagues de la mer, il n'y a aucun progrès. Il y a un peu de remous, mais il n'y a rien du tout. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Il est impossible à ce genre de personnes qui vivent dans le doute d'avoir de l'assurance, d'être ferme, inébranlable, de vivre dans le repos. C'est vrai qu'il y a des épreuves que Dieu permet. Dieu a déjà permis des épreuves dans votre vie. Il permet des épreuves pour que nous apprenions certaines choses. Regardez par exemple dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, c'est juste après, on voit que Dieu permet des épreuves. Il permet par exemple que nous soyons affligés. Mais voyez, on va faire la différence entre le fait de connaître une affliction et de vivre dans le doute. Ce n'est pas la même chose. Il y a les gens qui confondent. Mais regardez, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Voyez, verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. » Donc, si vous prenez le temps de méditer ce texte, vous allez voir que Dieu permet régulièrement que nous traversions certaines épreuves, certaines afflictions, certaines choses qui peuvent nous perturber. Mais voilà, c'est pour quelque chose. On est consolé pour apprendre à consoler les autres. Et on pourrait prendre énormément d'épreuves pour comprendre le sens de ce que Dieu veut dans notre vie. Mais il ne faut pas confondre les épreuves les afflictions avec le doute. Le doute qui, lui, provient d'un manque de foi et qui provoque des troubles, des malaises, qui provoque des découragements. Il y en a un qui est derrière tout cela pour que nous soyons dans la défaite. L'apôtre Jacques est formel. Un chrétien qui doute, c'est un chrétien irrésolu. Un jour, il croit à l'amour de Dieu, le lendemain, il en doute. Un jour, il croit à la bénédiction, le lendemain, il n'y croit pas. Un jour, il est heureux, le lendemain, il est triste. C'est vrai qu'on peut avoir des fluctuations, mais quand même. On voit des gens, tout d'un coup, vous le voyez un dimanche, ils sont sur la montagne de la victoire. Le dimanche d'après, ils sont dans la vallée du désespoir, vous ne les voyez même plus. Et on le voit, et ce n'est pas ça que Dieu veut. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire, irrésolu, indécis, qui n'est pas résolu, bon, hein, incertain, vacillant, perplexe. Voilà, incertain, vacillant, perplexe, indécis. Dieu lui a parlé, mais il se permet de remettre en question. C'est ce que je vous dis, un jour il est là, il a été touché par un verset. Oh, il est sur la montagne de la foi. Et le lendemain, il est perturbé parce que quelqu'un lui a dit quelque chose. Alors il est dans la vallée du désespoir. Oui, poussé d'un côté et de l'autre. Et l'apôtre dit, veillez de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Il y a des croyants, ils croient une chose. Le lendemain, ils croient l'inverse, etc., etc. Il y a des chrétiens qui sont là, ils attendent des nouvelles passages, des nouveautés. Ils attendent les derniers livres pour voir ce qu'on a sorti de meilleur, ce qu'on a sorti de nouveau. Et ils sont là, ils attendent des séminaires sur l'onction, ils attendent des séminaires sur la puissance, des séminaires sur la délivrance, etc. Je ne suis pas fondamentalement opposé, mais je crois qu'un chrétien, il doit avoir une vie linéaire, il doit avancer, il choisit d'être ferme. Comme Abraham, qui restait ferme malgré le fait qu'il ait dû attendre 25 ans l'accomplissement de la promesse. Certains sont tellement influençables et influencés que même quand le temps change, ça les perturbe. Voilà. La météo prévoit la grisaille, ils sont tristes toute la journée. Alors qu'on a des cantiques qui disent qu'on peut être heureux tout temps, c'est pas vrai, hein? Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont influencés, un rien les perturbe. Alors, il ne faut pas confondre, voyez, certaines choses. Et je crois que beaucoup de chrétiens mélangent les choses. Dieu nous demande de réclamer le discernement. Est-ce que le don du discernement, ce n'est pas un don quand même qu'il faut avoir? Ben ouais. On peut dire, Seigneur, mais donne-moi de discerner. On a chanté, mais sur nos yeux, ton divin collire, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Ce n'est pas arrivé plusieurs fois que Dieu a ouvert l'esprit et l'entendement des disciples pour qu'ils comprennent. Oui, par exemple, combien de chrétiens confondent le doute avec l'humilité? Oh, moi, je ne sais pas si Dieu m'aime. Vous savez, moi, j'ai tout le temps été humble. Mais est-ce que c'est de l'humilité, ça? Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Oh, moi non, je ne mérite pas que Dieu m'aime. Oui? Et tout ça au nom d'une espèce d'humilité. Moi, je vais vous dire, Dieu nous aime à tous. Et ce n'est pas de l'humilité de croire et de penser que Dieu ne peut pas nous aimer parce que nous, on ne vaut rien, etc., etc., etc. Ça, ce n'est pas sérieux. Qui suis-je pour que Dieu m'aide? Moi, je l'entends. Si vous saviez tout ce que j'entends. Oh, je ne sais pas si Dieu veut m'aider avec toutes les bêtises que j'ai faites. Je dis, mais vous n'êtes pas le seul. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Vous voyez, ils sont tout le temps en train. Alors, ils sont là. Ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est du doute. Et il y a des gens qui s'autorisent à s'imaginer qu'ils sont là, tout petits, que ça va plaire au Seigneur. Vous croyez que ça plaît au Seigneur? Quand vous lui dites, oh, Dieu, il ne m'aime pas. Vous savez, j'ai passé une mauvaise semaine, j'ai eu de mauvaises pensées. Je ne pense pas que Dieu m'aime, non? Bien sûr que personne n'est digne. Qui est digne de l'amour de Dieu? Personne. La Bible dit que quand il a fallu ouvrir les seaux dans l'Apocalypse, personne n'a été trouvé digne. Personne. Personne. Et les gens étaient tristes comme tout. Mais il est apparu que Jésus est trouvé digne. Et c'est vrai que Dieu a béni les hommes. Dieu a donné de la sagesse à Salomon. Est-ce qu'il a été digne de cette sagesse? Dieu a donné de la force à Samson. Est-ce que Samson a été digne de la force? Non. Dieu a donné de la puissance à David. C'est pour ça que la Bible dit que c'est à lui qu'appartient la force, la puissance et la sagesse. Il n'y a que lui qui est digne de ces choses. Bien sûr que nous ne sommes pas dignes. Et penser qu'on est digne, si quelqu'un disait « mais moi je suis digne », alors là on tomberait de suite dans l'orgueil et dans l'arrogance. Mais la base de notre assurance, je sais que Dieu m'aime, ne repose pas sur notre bonté, mais sur la bonté du Seigneur. Comme Dieu est bon, je peux avoir de l'assurance qu'il m'accordera sa bonté. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. Bien sûr que vous n'êtes pas satisfait de votre bonté. Est-ce que vous trouvez que vous êtes bon? Oui, pas suffisamment. Voilà, on fait des progrès, parce que quand même, je connais plusieurs parmi vous et je sais que beaucoup font des progrès. Mais qui peut douter de la bonté de Dieu? Voyez-vous, doutez peut-être de votre bonté, de votre propre bonté. Vous dites, oh, mais je ne suis pas bon comme je devrais l'être. Mais est-ce que c'est à cause de ça que Dieu vous aime? Non. Dieu vous aime et Dieu est bon. Mais c'est la palisse qu'il aurait dit. Mais Dieu est bon à cause de son immense bonté. Et vous ne pouvez pas douter de sa bonté. Vous croyez que ça plaît à Dieu quand quelqu'un doute de sa bonté? Ce soir, est-ce que vous espérez en sa bonté? Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Est-ce que Dieu peut vous faire grâce? Parce que vous êtes bon, vous? Parce que vous êtes meilleur, vous? Prenons l'exemple d'un couple. Que se passerait-il dans un couple si nous étions tout le temps en train de remettre en question la confiance de son conjoint? Qu'est-ce qui se passerait dans un couple si un homme n'avait jamais confiance à sa femme? Si une femme remettait tout le temps en question la confiance de son mari? Ou les enfants qui remettraient tout le temps en question la fidélité des parents, etc. Vous croyez que ça serait bien dans une maison? Non. Quoi qu'au niveau des hommes, ça peut arriver. Au niveau d'une famille, ça peut arriver qu'une femme se pose des questions sur la fidélité de son mari. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver qu'un mari se pose des questions sur la confiance qu'il peut éprouver envers sa femme. Ça, dans le monde, hélas, ça peut arriver. Mais pourquoi la foi des chrétiens est-elle irrésolue, indécise, vacillante, une fois devant, une fois derrière, etc. Eh bien, parce qu'ils doutent. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Oui, hélas. Ça peut arriver que dans un foyer, il y ait un problème de confiance entre un homme et sa femme, entre des enfants et des parents, ça peut arriver. Mais moi, je crois que les croyants, ils rendent un excellent témoignage lorsqu'ils font confiance à Dieu. Et lorsque dans leur relation, au boulot, au travail, et même dans l'église, ils montrent aux autres chrétiens qu'ils font confiance à Dieu. Ce n'est pas important, ça? Même entre nous, est-ce que ce n'est pas important que l'on se communique, que l'on s'encourage cette confiance dans la fidélité de Dieu? Oh, je ne sais pas si Dieu va m'aider. Vous voyez, je reviens à ce que je disais. Oh, moi, je ne suis pas digne. Quel témoignage? Quelle impression nous laissons sur les gens avec qui nous travaillons? Lorsque nous nous mettons à douter de la bonté du Seigneur, on l'a chanté, digne. On a terminé avec ce cantique. Digne es-tu, c'est celui-là. Vous l'avez chanté? Digne es-tu, vous rendez compte? Digne es-tu à Dieu, notre Dieu. Oui, toi, tu es digne. Personne ne l'est, mais on ne s'appuie pas sur la nôtre dignité, on s'appuie sur la tienne. On ne s'appuie pas sur notre bonté, on s'appuie sur la tienne. C'est pour ça qu'on ne doute pas. Parce que nous, on n'est pas, bien sûr, on n'est pas toujours crédible. Mais au moins, ne doutons pas de la sienne fidélité. Peut-être que des fois, on doute de quelqu'un, parce que la confiance, ça se gagne, la confiance en quelqu'un. Est-ce qu'on peut donner sa confiance à quelqu'un comme ça? Hein? Non, il faut, ça se gagne, la confiance. Mais est-ce que Dieu a gagné sa confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Il a gagné sa confiance en vous? Mais quand même. Douter de la fidélité de Dieu, ça peut même devenir un véritable péché. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va loin et qu'il dit ce que, quand même, on n'aurait peut-être pas osé dire, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que je crois que quand Dieu est obligé de nous dire que le doute, à force, peut amener cette conséquence de ne rien recevoir de la part du Seigneur, c'est parce que, qu'on le veuille ou non, ça représente quelque part un péché qu'il faut régler. D'où viennent nos doutes? Ça, c'est une question qu'on peut poser sans vouloir juger. Mais d'où viennent-ils? De ne pas apprendre à être résolu, de ne pas vouloir faire ce qu'on a lu dans les Corinthiens, de dire, bon, moi je vais être ferme, inébranlable, l'inverse.
Moi, c'est pas de, c'est pas, ça ne vient pas de l'humilité, je viens de le dire, mais ça vient d'une forme d'orgueil. Parce que ça montre que je remets en question ce que Dieu dit. Qui je suis pour remettre en question ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il nous aime, mais qui peut dire non, moi non. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Vous êtes toujours aimable? Non? Qui c'est qui a dit non? Ah bon? Mais non, on n'est pas toujours aimable. Est-ce que Dieu va changer? Ah, ils sont moins gentils, je vais moins les aimer. Non, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il a choisi de nous aimer. Que son nom soit béni. Et ça, ça doit nous rassurer. Et que c'est ça la véritable humilité. Mais c'est quoi au fait? Si l'orgueil consiste à se permettre de commenter ce que Dieu dit, moi je crois que la véritable humilité accepte l'amour qui lui est donné. Seigneur, tu me donnes ton amour. Même si c'est pas net, je reçois ton amour ce soir. Ça fait 25 fois que je me loupe, Seigneur. Mais ce soir, j'accepte encore ton pardon. J'accepte ta paix. J'accepte ta paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà la véritable humilité. Ça, elle accepte ce que Dieu donne. Bien sûr, si on commence à croire que Dieu il agit d'une manière intéressée ou par condition, ça ne va pas. Mais un homme qui est humble, il accepte ce que Dieu donne. Si vous êtes humble, réellement humble, vous accepterez l'amour de Dieu avec reconnaissance. Parce que ce soir, son amour coule. Il est assis sur le trône de la grâce, il est assis sur ce trône de miséricorde et son amour veut couler. Nous le chantons abondamment, nous avons des cantiques merveilleux, mais quand il s'agit de le saisir, nous passons à côté. Oui, nous ne sommes pas toujours fiers de nous. Mais est-ce qu'il faut regarder à nous-mêmes? Est-ce que c'est ça la foi? Regarder à nous? Ou la foi c'est regarder à Dieu? Il faut savoir. Hein? Nous devons être conscients de notre indignité, ça c'est clair, parce que sinon nous tomberions dans l'arrogance. Vous voyez, il faut trouver cet équilibre. Je ne suis pas digne, mais par le sang du Seigneur, je suis rendu digne. C'est vrai. Je sais que je ne dois pas regarder à ma bonté, je dois regarder à la bonté de Dieu. C'est comme ça que je recevrai. C'est comme ça que je serai au bénéfice. Une foi irrésolue, c'est quelqu'un qui doute de la bonté du Seigneur. Et non seulement c'est un péché, ça devient un péché, mais en plus nous souffrons. Nous souffrons, nous nous faisons souffrir à nous-mêmes. Vous aimez que les autres vous fassent souffrir? Non. Est-ce que vous savez qu'on peut se faire souffrir soi-même? Est-ce que vous savez qu'on peut s'infliger certaines souffrances parce qu'on remet en question certaines choses? Quelqu'un qui est tout le temps en train de douter, de râler, il est en train de se faire souffrir. Alors on peut dire, mais non, c'est pas grave, bon, il doute. Mais il s'impose une certaine forme de souffrance. Et il s'empêche de progrès. Parce qu'on a vu que celui qui est ferme, il travaille de mieux en mieux, il est inébranlable, et ça, il aura une récompense devant le Seigneur. Mais comprenez bien que celui qui doute, il ne peut pas faire de progrès avec Dieu. Regardez ce texte avec moi dans Hébreux 3,14. On le voit bien par ce verset. Dans Hébreux 3,14, c'est très bien expliqué. Il y a le mot « fermement », c'est pour ça que j'ai pris le mot « ferme » pour mettre en opposition avec le doute. Regardez, Hébreux 3, verset 14. C'est bien pour comprendre un sujet de mettre des mots qui s'opposent entre eux. Voyez, Hébreux 3, verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Si vous inversez ce verset, vous verrez que quelqu'un qui doute, il ne peut pas avoir d'assurance. Il ne peut pas persévérer. Il ne peut pas retenir. Voyez, soyez de ceux qui persévèrent. Vous avez vu? C'est important, on le relit. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Au commencement, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est une expérience très forte, la conversion. Vous êtes d'accord avec moi? On fait une expérience profonde, on ne doute pas. On était dans le péché, on était dans les ténèbres, on était voués à l'enfer et tout d'un coup, on obtient la paix, le pardon, la bénédiction, le repos, la lumière.
L'expérience du commencement, c'est une expérience extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu dit, mais cette expérience, cette assurance-là, il vous faut la garder. Si le doute commence à venir dans votre cœur, ne nous attendez pas à retenir fermement cette assurance. Et je crois que les chrétiens, ils doivent prendre au sérieux ce genre d'exhortation, retenir fermement, jusqu'à la fin, la pleine assurance. Vous savez, quelqu'un qui voudrait être béni, vraiment béni, et qui vivrait dans le doute, qui choisit de vivre dans le doute. Parce que le doute, vous allez me dire, le doute, ce n'est pas l'incrédulité. C'est vrai. L'incrédulité, c'est un choix, c'est aussi un choix. Quand dans l'Apocalypse, il est dit, mais pour les lâches, les meurtriers, les adultères, les incrédules. Les incrédules, ce sont des gens qui ont fait le choix de ne pas croire en Dieu. C'est un choix. C'est pour ça qu'ils iront en enfer. Ils font le choix, ils disent non, Dieu n'existe pas, c'est un choix. Ils ne sont pas athées, ils ne sont pas plus athées que n'importe qui. Quelqu'un a dit j'étais athée, ah, moi aussi je suis athée. Les gens, ça les arrange très bien de dire qu'ils sont athées, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de régler le problème du péché. En fin de compte, l'athéisme, c'est ça. C'est une très très bonne excuse pour ne pas régler la question du péché. Moi je le vois comme ça, bon j'abrège un peu, mais c'est comme ça. L'incrédulité, c'est un choix. D'être ferme par rapport à ce que Dieu dit, ça prouve qu'on a confiance en Dieu. Et douter, c'est la même chose. C'est pour ça que la Bible dit, mais non, retenez, soyez ferme, inébranlable, ne doutez pas. Celui qui doute, imaginez quelqu'un qui voudrait aller monter les Pyrénées et qui ferait 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Il n'est pas prêt d'y arriver, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui se met en bas d'une montagne, il veut faire une randonnée dans les Pyrénées, et voilà, il fait 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Et vous lui direz, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais atteindre le sommet. Et vous allez lui dire, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal. C'est pas vrai? Je crois qu'un chrétien, il doit savoir ce qu'il fait. Il y a un proverbe chinois. J'ai lu derrière moi un proverbe chinois qui dit, si tu sais pas où tu vas mettre longtemps pour y aller. Et j'ai dit qu'il est bien ce proverbe. Je voulais vous le dire en chinois, mais j'ai pas osé. Si tu ne sais pas où tu vas, tu mettras longtemps pour y aller. Et je me suis dit, mais c'est ça le doute. On ne sait pas où on va. Un chrétien, il sait où il va. Un chrétien, il doit savoir qu'il doit avoir de l'assurance, il doit avancer. Ça, je dois le faire. Ça, c'est quelque chose que je dois faire dans ma maison, dans mon travail, dans l'église. Voilà, je suis appelé à ça, je le fais, je ne doute pas. Mais quelqu'un qui doute, il n'atteindra jamais un objectif. Et c'est dommage, je crois qu'un chrétien, il doit apprendre à se déterminer. Il doit apprendre à se décider. Je crois que c'est beau d'avoir de l'assurance. Et l'assurance que nous avions au commencement. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on a de la joie, qu'on a de l'espoir, qu'on a de l'assurance et qu'on poursuit la route malgré, bon, bien sûr, les aléas. Mais quand même, d'une certaine manière, on reçoit l'approbation de Dieu. Parce que quand on fait ce que Dieu nous demande, on a une approbation intérieure. C'est pas vrai ? Est-ce que vous n'avez pas vécu cette chose-là? Vous avez fait ce que Dieu vous demandait, vous avez honoré sa parole. Mais il a dit le Seigneur, celui qui m'honorera, je l'honorerai. C'est une loi, c'est un principe. Et quand la Bible dit résister au diable, c'est une façon de nous apprendre à lutter contre les ruses de l'ennemi qui voudrait que nous doutions. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tombé dans l'incrédulité, on n'en est pas à dire « je ne crois pas en Dieu ». Moi, j'ai vu des gens à qui j'ai posé la question, mais vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu, sans malheur, mais je doute. Voyez, ils ont trouvé une espèce de compromis qui n'est pas bon du tout, parce que c'est une division de l'esprit, c'est une division de l'âme, c'est un partage. Il y a un texte dans la Bible qui dit, mais votre cœur est partagé, vous en porterez la peine. Un chrétien, il ne doit pas avoir le cœur partagé. Il accepte ce que Dieu dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le doute, on doit le combattre de la même manière que toutes les ruses du diable, quand il est dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On ne doit pas apprendre à vivre avec des doutes. Bon, mais je doute, mais c'est comme ça, il faut faire avec. On entend des fois, ben oui, il faut faire avec. Mes frères et sœurs, on ne fait pas avec le doute. On se débarrasse du doute. On a bien pris des décisions, je ne sais pas moi, peut-être que quand vous étiez pêcheur, vous commettiez certaines choses qui n'étaient pas bien. Eh bien, de la même manière, par exemple, qu'un jour, on a décidé de ne plus voler, on doit décider
de ne plus douter. C'est pareil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un choix que l'on doit faire. Et tout le mal provient de manque de foi. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on a lu. Que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Parce que c'est un principe, je l'ai rappelé dimanche, c'est une loi du royaume de Dieu. C'est comme ça, il nous sera toujours et toujours et toujours et toujours fait selon notre foi. C'est comme ça, c'est une loi spirituelle. On ne peut pas l'éviter, on ne peut pas la contourner, on ne peut pas la changer. Il y a des gens, ils voudraient que les choses changent. Un jour, il y a une jeune fille qui m'a dit, mais vous ne croyez pas, monsieur Go, que Dieu pourrait changer d'avis? Et qu'il pourrait accepter que des chrétiennes se marient avec des inconvertis? Je lui dis, écoutez, moi, je ne pense pas que Dieu va changer d'avis. Et cette fille m'a dit, mais si, moi, je crois que Dieu, à cause de son amour, il peut changer d'avis. Oui, ça, c'est pas sérieux du tout. Vous savez, ce que Dieu a écrit, il l'a écrit, et que même si un ange du ciel, un ange, hein, venait et annonce notre évangile, qu'il soit maudit ou anathème. La Bible termine avec un des avertissements les plus sévères, qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, que celui qui va s'amuser à retrancher ou à ajouter, il va avoir de sérieux problèmes lorsqu'il va passer devant Dieu. Et la raison de nos échecs vient souvent que sans nous en rendre compte, nous avons commencé à douter. Un chrétien, il ne doute pas. Il choisit de rester ferme. Dieu l'a dit, je le crois. Il a fait telle promesse, je l'attends. C'est pas écrit? Si elle tarde, attends-la. Vous pouvez attendre les promesses de Dieu. Vous voyez, c'est après, d'une manière générale, quand il parle des moqueurs des chrétiens, de la fin des temps, qui disent oui, mais tout demeure comme dès le commencement, la promesse de son avènement. Jésus dit que ce sont des moqueurs. Vous savez, quand on doute de la parole de Dieu, on finit par se moquer de la parole de Dieu. C'est comme si on s'en moquait. Et les moqueurs, ils porteront la peine. C'est pour ça que je vous disais que quelqu'un qui doute, il se fait souffrir. Alors je crois que c'est quand même dommage qu'un chrétien, eh bien, se fasse souffrir. Il pourrait s'éviter bien des douleurs, bien des luttes, bien des combats. Je ne parle pas des afflictions dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui sont nécessaires. Mais il y a, je crois, une quantité de luttes, de combats, de doutes, de malaises et de souffrances que nous pourrions éviter si nous choisissions de ne pas douter. C'est quelque chose d'absolument important. Dieu dit, mais si quelqu'un... C'était dans le cadre des épreuves, en plus, que l'apôtre Jacques dit, mais écoutez, si quelqu'un manque de sagesse, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Est-ce que vous comprenez tout? Il dit, mais écoutez, demandez de la sagesse. Après tout, Dieu peut nous révéler certaines choses. Est-ce que c'est écrit que Dieu peut nous révéler ses secrets? Ben oui, il peut nous révéler des explications spirituelles de situations qui sont là autour de nous. Mais le doute ne crée pas une bénédiction, ne crée pas un rapprochement avec Dieu. Le doute, au contraire, il crée un fossé et même un abîme. Et rien ne comblera cet abîme, sinon de retrouver une foi vivante. Je le répète, que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et faites très attention, je le répète parce que quand même c'est sur mon cœur ce soir, ne confondez pas le doute avec l'humilité. Vous savez, c'est de la pseudo-humilité, c'est plus de l'orgueil que de l'humilité, que de douter des choses de Dieu. Ce n'est pas parce que vous doutez non plus que Dieu va être en colère. Mais il ne pourra pas agir. Il ne pourra pas le faire. C'est la nature des choses spirituelles. Vous savez, il y a des choses, on le sait. Ce qu'on sème, ça prend vie. Tant qu'on ne le sème pas, ça ne prend pas vie. On a retrouvé, je ne sais pas, il y a quelques années, du blé dans des pyramides en Égypte, du blé qui datait du temps du patriarche Joseph. Du blé qui avait des milliers d'années. Mais vous le mettez dans la terre, 3 jours après, il a germé. C'est la nature. Dieu l'a voulu comme ça. C'est comme ça. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Alors c'est vrai que si vous doutez, Dieu n'est pas en colère contre vous. Mais ça rend impossible son action. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans le repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? On le lit ce verset, c'est dans Hébreux 3, regardez. Regardez ce verset, parce que le Seigneur va leur montrer ce qui se passe lorsqu'on se met à douter et à devenir incrédule. Rappelez-vous quand Dieu a dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Il avait douté, mais à force de jouer avec le doute, on a fini par en perdre la foi et à redevenir incrédule. Hébreux 3, versets 18 et 19. À qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Question. Après, il explique ce qu'est la désobéissance, verset 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur... Il aurait pu dire de leur désobéissance. Ce qui vous prouve que le doute peut amener l'incrédulité et que tout ça, c'est une forme de désobéissance. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un péché. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut absolument le retenir, mes frères et sœurs. Oui, c'est comme pour le salut. Pour le salut, on a tout fait par la foi. On a accepté. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par la grâce, par le moyen de la foi. Ils n'ont pas pu rentrer à cause de leur incrédulité. C'était impossible. C'est pas que Dieu ne voulait pas, c'est que Dieu ne pouvait pas. Ce texte nous montre que l'incrédulité, ça ferme la porte. La foi, c'est la porte, c'est la seule porte qui permet à Dieu de bénir. Et si vous ne voulez pas passer par la porte de la foi, vous pourrez faire ce que vous voulez, par les œuvres, le salut. Les gens qui veulent être sauvés par les œuvres, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Et non. Il faut comparer avec le salut pour comprendre facilement. Le salut, ce n'est pas un achat à faire. Est-ce qu'on peut monnayer le salut? Il y en a qui font des indulgences, vous savez. Après leur mort, voilà, ils donnent leur maison, comme ça leur coûterait, ils sont morts. C'est sûr que ça, c'est pas un gros sacrifice. Hein. Après ma mort, je donne toutes mes maisons. Oui, c'est clair, tu ne vas pas les prendre. Hein. Non, mais franchement. Mais enfin, le salut, bon, ça c'est autre chose, une parenthèse. Le salut, ce n'est pas un achat. Ce n'est pas un salaire à payer. Ce n'est pas des sommets à conquérir. Je ne sais pas ce qu'on pourrait... Une tâche à accomplir, des œuvres à faire. Non, le salut, c'est un don. Oui ou non? C'est un don. Jésus vous sauve. On ne sait même pas pourquoi on est là ce soir. C'est vrai, on posait la question parce que Dieu nous a fait un don. On l'a pris. Alléluia. C'est pas bien, c'est pas merveilleux. Pourquoi on est là, nous, ce soir? Parce qu'on n'a pas voulu aller à la fête de la musique? On est là parce qu'on a choisi de venir dans la maison du Seigneur, parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce il y a combien? Il y a combien que Dieu vous a fait grâce? Hier, il vous a fait grâce? Avant-hier, il vous a fait grâce? On continue? Avant-hier, la semaine dernière? Depuis combien de temps Dieu vous fait-il grâce? C'est un don. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un don. Un don à accepter. Et ça ne peut l'être que par la foi. La foi, c'est le seul moyen pour obtenir le salut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais tout le reste, c'est pareil. C'est par la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Combien c'est important. Il faut toujours prendre. Je disais l'autre jour, mais si on vous met à côté de vous une enveloppe là, une grosse enveloppe pleine d'argent. Et voilà, c'est pour vous. Prenez-la. Imaginez que vous partiez, non, je la laisse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous la prendrez ou la prendrez pas? De toute façon, si vous la prenez pas, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre se chargera de la prendre. Mais est-ce que, si vous la prenez pas, elle va rester là? Vous êtes d'accord avec moi? Si on vous fait un don, il faut le prendre. Pas parce que vous le méritez ou parce que vous êtes meilleur que l'autre. C'est un don. Et c'est une loi. Il vous sera fait selon votre foi. Plus vite nous comprendrons, plus ça vaudra. Tous nos doutes proviennent du fait que nous ne comprenons pas cette loi. Tous les doutes viennent de là. Si nous comprenions cette loi, nous ne douterions pas. C'est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Il n'y a pas besoin d'ajouter à quelque chose. Il y a une dame qui me disait l'autre jour, oh, moi, après que j'ai prié, je m'endors, je serre la Bible contre moi. Je m'endors avec la Bible. Je dis, mais pourquoi faire? Pour que Dieu me bénisse. Vous voyez, ça fait rire. Mais il y a des gens qui ajoutent à la foi les sentiments, les pleurs, ils se font pleurer. Ils ajoutent la ferveur. Est-ce que c'est bien d'être fervent d'esprit? Bien sûr, c'est important de l'être. Mais il n'y a rien à ajouter. Il faut croire. T'as mieux, tant pis, ou t'as mieux, j'en sais rien. Mais vous n'avez pas besoin de rajouter à la foi quelque chose. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent qu'il faut ajouter quelque chose, comme les sentiments, le sentir, les dispositions, les circonstances. Non. Je vais terminer avec un exemple. Lorsque Jésus était sur la terre, il a béni. Rien n'a empêché Jésus de bénir. Aucune forme de péché, lorsqu'il était dans un village, lorsqu'il était dans une ville, n'importe où, même quand il a rencontré le gadarénien, rien n'empêchait Jésus de bénir, sauf l'incrédulité. On termine avec ce texte pour comprendre bien Matthieu 13, 58. Et c'est un texte, moi, qui m'a toujours fait réfléchir pour les réunions d'évangélisation. Matthieu 13, c'est quand même un texte. Il faut bien le mettre en comparaison avec tout. Rien n'empêchait Jésus, rien. Partout où il était, le péché sous toutes ses formes, Jésus bénissait. À la piscine de Bethesda, vous ne croyez pas qu'il y avait le péché sous toutes ses formes ? Est-ce qu'il a pu bénir ? Oui. Regardez, Matthieu 13. Matthieu 13, alors que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il était chez lui, donc il était à Nazareth, d'accord ? Hein ? Verset 54. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. » D'après vous, franchement, il est arrivé chez lui à Nazareth. C'était son village. Quand même, il avait grandi là. C'est pas formidable ? Est-ce qu'il voulait bénir, d'après vous ? Dans son village où il a vécu, etc. Où il a vécu. Alors, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? Oui, ce n'étaient pas des questions qui poussaient à la réflexion sur le Fils de Dieu. D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et il voulait en faire, mais il ne pouvait pas. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Bon, il en a fait quelques-uns, c'est quand même bien. Mais il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire à cause, c'est écrit, à cause de l'incrédulité. Alors mes frères et sœurs, pour conclure cette réunion, nous qui sommes convaincus que c'est un choix d'être ferme, inébranlable, pas à cause de nous, à cause de ce qu'il dit, que nous devons choisir de ne pas douter, c'est la question qu'il faut se poser pour conclure, mais comment mettre un terme à cette foi, à cette foi hésitante, à ce doute ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, de la même manière qu'on peut renoncer à, je ne sais pas moi, qu'on a renoncé à avoir de l'amertume. Non, je ne veux pas de l'amertume, je veux du pardon dans mon cœur. C'est un choix que l'on fait de pardonner, oui ou non ? Est-ce que nous, les chrétiens, on pardonne plus facilement parce qu'on est chrétien ? Non, on choisit de pardonner. De la même manière qu'on choisit de pardonner, de la même manière qu'on choisit d'hésiter quand on doit prendre une décision, parce que des fois, il y a des gens qui font qu'hésiter, ils ne prennent jamais de décision. Tant que vous douterez, vous hésiterez. Et il y a des choix à faire. Peut-être que vous doutez, que vous devez toujours douter. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement pris le pli, c'est pas vrai ? Il y a des gens, ils ont pris ce pli de douter, et ils continuent à douter, donc c'est normal, j'ai toujours douté, donc je douterai toujours. Non. Le doute dit, oui, Dieu ne me pardonne pas. Dieu ne m'aime pas. C'est ça le doute. La foi, elle dit, il me pardonne. Il a dit qu'il me pardonnait. Je choisis son pardon. Je suis son enfant pardonné. Et pour toute chose, il faut faire pareil. Vous devez prendre cette décision. De dire maintenant, je vais être ferme par rapport à ce que Dieu dit. Seigneur, tu m'appelles à faire des progrès, à travailler de mieux en mieux. Nous n'avons pas envie de voir des miracles au milieu de nous. Vous n'avez pas envie de voir des délivrances, des guérisons dans votre famille, votre fils est un incrédule. Et alors ? Est-ce que Dieu peut l'arrêter ? Parce que voyez, je le disais cet après-midi à Balma, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Convertir quelqu'un, est-ce que vous pouvez convertir quelqu'un ? Bon. Nous souffrons parfois de ne pas pouvoir convertir quelqu'un. Mais il y a des choses qu'on peut changer, c'est nous. De la même manière qu'on ne peut pas convertir quelqu'un, de la même manière, nous, on peut choisir de faire certaines choses. Et choisir de ne pas douter. Et de dire, moi Seigneur, mon fils, il est peut-être inconverti, mais ou ma fille, ou j'en sais rien, Seigneur, tu le sauves. Je ne doute pas. Tu as le pouvoir de l'arrêter comme tu as arrêté Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Mais qui peut empêcher Dieu d'exaucer une prière en ce qui concerne le salut d'une âme ? Ne doutez pas que Dieu puisse sauver quelqu'un. Ne doutez pas. Si vous doutez, ce n'est, je le répète parce que c'est archi important. Parce que quand même, je suis peiné de voir la quantité de chrétiens qui confondent le doute avec l'humilité. Ah, ça c'est un piège du diable. Le doute, ça ne plaît pas à Dieu. Et de la même manière que Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu n'exauce pas les gens qui doutent. Alors prenons cette décision, vous n'avez pas douté, doutez de vous, ce n'est pas grave, mais ne doutez pas de Dieu. Que vous vous posiez des questions sur vous, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, Dieu est digne de confiance. Alors il faut que Dieu puisse faire beaucoup de miracles au milieu de nous. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il se passe ici ce qui s'est passé à Nazareth, à cause de notre doute, qu'il se transformerait petit à petit en incrédulité, que le Seigneur ne puisse pas faire certaines choses. Si Jésus dit « prenez le bouclier de la foi », eh bien je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Et croyons ce que Jésus a dit, que tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il faut revenir à cette foi vivante, à cette foi inébranlable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Point. Ce n'est pas la peine de revenir continuellement sur des péchés. Il y a des chrétiens, ils reviennent sur des péchés il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. Est-ce que Dieu... Moi, j'ai vu une dame cette semaine qui m'a dit, voilà, j'ai péché il y a 20 ans. Il y a 20 ans. C'est grave. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Mais je dis, est-ce que vous lui avez demandé pardon? Ben oui, et ben, il y a 20 ans qu'il vous a pardonné. Et il y a 20 ans que tous les jours, elle demande pardon par rapport à ce péché. Mais si Dieu la croisait dans la rue, si elle lui parlait de ce péché... Elle lui dirait, Seigneur, tu... il lui dit, mais quel péché? Puisque la Bible dit que nos péchés, quand ils sont pardonnés, Dieu ne s'en souvient pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est ça, honorer Dieu, c'est ça la foi. Les péchés que vous avez commis, si vous avez demandé pardon, Dieu ne s'en souvient pas. C'est bien. Que son nom soit béni. Honorons-le avec une foi vivante. Merci parce que tous mes péchés avant ma conversion, n'en parlons pas, mais même après ma conversion, tous ceux qui ont été déposés à la croix, tous ceux qui ont été déposés au pied du Seigneur, ils sont pardonnés. C'est ça la foi. Sinon on a un Dieu qui quoi, qui compose avec quoi? Quand Dieu dit qu'il pardonne, il pardonne. Quand Dieu dit qu'il nous aime, il nous aime, il nous aime. Quand il dit que si vous commettez un péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, bien sûr, et on demande pardon. Bien sûr, on ne fait pas ça, on ne s'amuse pas avec le péché volontaire. Et ne vivons pas de ce que nous ressentons, mes frères et sœurs. Vivons de ce que Dieu dit. Soyez fermes, mes frères. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux. Et si on travaille dans cette fermeté, dans cette foi vivante, le Seigneur fera certaines choses au milieu de nous. Alléluia. On veut voir Dieu faire certaines... Qu'est-ce que c'est pour lui? Qu'est-ce que c'est pour lui de bénir 10 000 Toulousains? Vous croyez que c'est une grosse affaire? Est-ce que Dieu n'a pas béni un jour toute une ville qui s'appelait Ninive? Des gens qui s'étaient attirés la colère de Dieu? Il les a tous sauvés. Vous savez que c'est le plus grand miracle de l'histoire. Toute une ville qui s'est convertie. Vous voyez? Alors soyons fermes. Quel choix faites-vous? On termine en priant. Quel choix faites-vous? De continuer à douter? De penser que vous allez toujours douter? Ou est-ce que ce soir vous faites le choix de dire « Seigneur, je vais t'honorer ». Tu me demandes d'être ferme, de ne pas être irrésolu. C'est le choix que je fais ce soir. Tu m'as donné un rendez-vous ce soir dans ta maison. Eh bien, je fais ce choix. J'en ai assez de te décevoir, de me faire souffrir. J'en ai assez de me faire souffrir. Je vais choisir cette foi vivante, cette assurance que j'avais au début à ma conversion. Je la retrouve ce soir. Et je redeviens ferme dans mes prières, ferme dans mes confessions, ferme dans mon intercession. Et Dieu vous honorera. C'est une loi. C'est une loi où vous choisissez d'être ferme, où vous choisissez de douter. Si nous choisissons de douter, notre témoignage ne plaira pas au Seigneur. Même s'il continue à nous aimer, même s'il nous fera grâce, quel témoignage. Et si nous choisissons d'être ferme, inébranlable, eh bien il exaucera nos prières.